Bon, je m'appelle Massa Kone. Je suis le porte-parole de la convergence malienne contre les accaparements des terres. Je suis le porte-parole de mon organisation qui est l'Union pour le développement et la défense des droits des démunis, qui est un réseau des communautés victimes de toutes les malversations foncières qui sont mises ensemble pour faire pression, attirer l'attention du gouvernement qu'ils existent des droits. Et ils ont des droits et que ça doit être respecté. Je suis le porte-parole de ces communautés aussi.
D'accord.
On appelle les mouvements de lutte des bases.
Donc les droits dont tu parles, comment tu les décris?
Les droits dont je parle, c'est les droits coutumiers. C'est nos droits déjà de nos terres. Vous savez, depuis l'histoire, nous sommes une zone soudano-sahélienne, une zone des grands empires et des grands royaumes, qui avaient une gouvernance à l'époque. Les empires étaient régis par des lois. Il y avait une administration qui était là. Donc cette administration, à titre d'illustration, je vous parle même de Kourkanfouka. Kourkanfouka, ça a été fait au temps de l'Empire du Mali, c'était dans les années 36, 30 combien, où la société a été régie, il y a eu des règles sociales qui aujourd'hui font toujours notre force, notre cousinage, notre façon de se marier, comment conduire la famille et surtout la gestion des ressources naturelles. Chez nous, quand tu pars chez nous, tu verras que le fleuve a un maître. Il y a des ethnies, ce n'est pas un homme, mais toute une ethnie qui travaille sur le fleuve, que tout le monde connaît, tout le monde dit. Il y a eu un autre groupe qui ont été des forgerons. À l'époque, c'est eux qui préparaient les fusils, les dabas, tout ça, c'est leur vie. Il y avait des groupes de cultivateurs. Il y avait des groupes aussi qui étaient là, qui essayaient de travailler entre les communautés pour régler des différences, tout ce qu'on appelle les djélis, les griots. Donc la suite était régie comme ça. Bon, la terre a été bien discutée et les critères d'obtention des terres ont été définis. Et ce qui a été mis en exergue, ça a été dit que la terre n'est pas à vendre. La terre, tout le monde a droit à cette terre et la cession de cette terre doit être faite à des familles et non à des individus. C'est la partie de plus intéressante de la terre. On cède la terre chez nous à des familles. La gestion est confiée soit au chef des villages, au chef des terres, mais qui les cède moyennant des choses symboliques, pas de l'argent. Il n'y a jamais eu dans notre tradition l'argent espèce pour la terre, ni tété. C'est dernier, après les indépendances, tout, et où on a la terre, il y a une ruée sur la terre. Donc, après les indépendances, c'est que la terre a eu trois événements chez nous. La période postcoloniale, la période coloniale et la période précoloniale. Mais la période précoloniale a amené l'événement des titres fonciers. Mais la période postcoloniale a bouleversé tous les systèmes de nos terres. Ça, c'est y compris, ils ont profité des grandes calamités de chez nous.
Commençons par la question de la période coloniale. Quel a été l'impact de la période coloniale sur le terme foncier, effectivement? C'est-à-dire, quelle est la quantité, par exemple, de terres qui ont fait l'objet de titres de propriété et quelle incidence ça a eu sur les communautés?
Je vous dis une histoire. Le premier titre foncier a été créé chez nous en 1903 par les Polonais. C'est eux qui ont amené l'événement des titres fonciers. Mais ils ont reconnu le droit coutumier. Les titres fonciers étaient faits pour eux et l'administration. Mais ils ont reconnu le droit coutumier. Ils reconnaissaient les chefs coutumiers et leurs droits. Mais ils n'empêchaient pas de les piétiner s'ils ont besoin de leurs terres. Mais ils créaient des titres fonciers. Mais ça, c'est la période coloniale. Mais la période postcoloniale, après la colonisation, nos gouvernements, après, ils ont dit que non, la terre appartient à l'État. C'est que c'est des communistes qui sont venus au pouvoir. Ils ont banni toutes sortes de propriétés privées. Ils ont pris toute la terre, la terre appartient. Tout le monde a applaudi. Oui, bon, nous sommes passés. Tout le monde, les gens n'étaient pas d'accord de ce phénomène de vente des terres. Bon, après, le régime militaire, le système capitaliste est venu. Après, c'était après la colonisation. C'est la troisième phase que nos terres ont connue. Donc, il y a eu la mise en place d'un code domanial et foncier. Et dans ce code domanial, ils ont continué avec le même système pour dire que la terre appartient à l'État. Mais pour nous, l'État, c'est nous tous. C'est une garantie quand même aux terres. Et dans le même code, ils ont cité l'article 43. Donc, le code de 260 et quelques articles, il y a 6 articles seulement qui parlent des droits d'usage et des droits coutumiers. Et dans ces 6 articles, il n'y a qu'un seul article, l'article 43, qui dit que les droits coutumiers sont reconnus. Mais il n'y a pas d'article qui prouve comment tu matérialises cet droit coutumier pour avoir un document. Non.
C'est-à-dire que le droit coutumier reconnu ne fait pas référence, par exemple, à la charte de Mandingue ou au texte ancestraux.
Oui. Non, le code domanial ne fait pas référence au code ancestraux.
Donc qu'est-ce qu'il veut c'est dire un par domanial... droit coutumier qu'est-ce que ça veut dire?
Le droit coutumier, chez nous, c'est un droit d'acquisition de terres de façon héréditaire. Ça peut être de façon héréditaire, dans des terres où les parents des arrières et des arrières parents étaient installés et qui cultivent, les droits leur reviennent. Bon, depuis dans les temps historiques, il y a eu des grandes conquêtes, où il y a eu des grands déplacements de peuples. Ils sont allés s'installer. Donc le premier qui est là, c'est comme notre système de chefs de village. On a notre système de chefs de village qui constitue qui est l'autorité locale des communautés. Mais c'est des familles qui sont là depuis des siècles. Peut-être que la plupart des cas, c'est des premiers qui ont équipé la zone. Et que tous les autres sont venus s'ajouter à eux. Donc ils ont eu ce privilège d'être chef de village. Mais ce n'est pas une autorité répressive. Non, ils n'ont pas le pouvoir de répression. Non. Mais ils ont le pouvoir de trancher les différences, de régler la gestion de la terre, de régler les différences, des grandes différences entre pêcheurs, agriculteurs, tout. Donc ça, c'est leur rôle de régulateur. On appelle chef de village, mais ils n'ont pas le pouvoir de répression. Ils ne peuvent mener personne en prison. Non. Mais les problèmes de mariage, les problèmes de différence et tout, c'est eux. L'administration même les reconnaît et passe par eux.
Est-ce que le titre de chef de village est un titre héréditaire ou bien est-ce que
c'est un titre héréditaire. La plupart des cas, c'est des titres héréditaires. C'est des titres, c'est des familles qui sont là. La plupart, le 90% est héréditaire. Mais d'autres systèmes, parce que les familles sont tellement grandes qu'ils naviguent maintenant entre 2 tribus ou 3 tribus. Souvent, c'est tributaire, souvent, c'est héréditaire.
D'accord. Oui. Quel est l'impact aujourd'hui concrètement de l'accaparement des terres au Mali en particulier?
Oui, quand on regarde l'accaparement des terres au Mali, vous savez que c'est tout. Ça a commencé, oui, après les périodes après-coloniales, quand ils ont commencé les permis d'exploitation pour l'exploitation minière, des manganèses, des phosphates, de l'or, de l'uranium, parfait par les Français. Donc, en 2008, ce phénomène fou d'accaparement a commencé en 2008. Parce que c'est en 2008 que la Banque mondiale a contraint nos États à mettre la terre au marché international pour que l'agro-business commence, pour dire que non, ce n'est pas votre production qui peut vous nourrir. Donc c'est comme ça que des milliers et des milliers d'hectares ont été accaparés dans le fil du Niger, qui est une zone potentiellement irrigable, qui ont été mis entre les mains de ces multinationales. D'autres ne le cultivent même pas. D'autres y viennent, mais le plus grand danger, c'est que ces titres, ces bois amphithéotiques, parce que chez nous, on a le titre foncier, le permis d'exploitation, le bois amphithéotique et la modiation. Chacun a eu des conséquences très graves. Mais je ne prends que le bois amphithéotique et la modiation, le permis d'exploitation, le bois amphithéotique et la modiation. Le permis d'exploitation, c'est pour les mines et tout, qui sont créés sur des centaines et des centaines de villages qui ne sont même pas au courant. Et un jour, ils débarquent avec des 4x4 avec la gendarmerie et tout, pour dire non, vous allez vous déplacer, on va extraire de l'or ici. Mais les bois amphithéotiques, c'est sur des zones d'agriculture où les multinationales et des opérateurs économiques, des hauts fonctionnaires et des agences sont allés sur ces terres-là. Bien vrai que ces terres sont occupées, cultivées par les petits paysans. Et ils viennent débarquer un beau matin. Non, j'ai un bois amphithéotique sur vos villages, sur vos terres. C'est assez, l'impact. Non, d'abord, ça s'est matérialisé par des répressions très féroces. On a enterré nos gens. Des gens battus à mort, des gens emprisonnés par centaines. Et maintenant, aujourd'hui, on est aujourd'hui, on peut évaluer les impacts. Ça a été l'immigration fou des jeunes. Tous les bras valides partent, c'est les femmes et les enfants des vieux qui restent dans les villages. On a des villages sans terre, depuis 5 ans, 6 ans, qui ne cultivent pas, qui sont obligés d'aller faire du mendiant. Des jeunes filles sont obligées de se prostituer. La maladie de sida qui fait. Parce que personne n'est protégé, parce qu'ils sont obligés de passer par tous les voies pour se faire nourrir. Donc, la migration galopante a été obligatoire. Les villes sont remplies, l'insécurité est partout en ville parce que tous ces jeunes qui viennent n'ont pas d'emploi et ils ne peuvent pas retourner chez eux parce qu'ils n'ont rien chez eux. Et les prix des denrées alimentaires qui flambent, qu'on appelle la vie chère. On dit que c'est eux la solution, mais c'est avec eux leur arrivée que les prix ont commencé à flamber. Parce qu'eux, ils font des monocultures d'exportation.
Quelles sont les monocultures en question? Est-ce que c'est...
Les cannes à sucre. Ils font des cannes à sucre. Aujourd'hui, le Mali, c'est des cannes à sucre. Ils disent qu'ils vont faire du bleu. Bon, ça, par la lutte, on a pu chercher les Sud-Africains, autres qui étaient sur 20 000 hectares. Kadhafi qui voulait faire autre chose, Kadhafi par la guerre, il est allé, le Mali-Libye est resté. Donc maintenant, ils ont commencé le pomme de terre. Le pomme de terre, ce n'est pas notre nourriture en nous. Mm-hmm. Le pomme de terre, chez nous, c'est pour des riches. Donc ceux qui font, Moribo qui est allé, GDCM, l'opérateur économique qui est allé s'accaparer de plus de 20 000 hectares, donc qui a fait beaucoup de pression dans ces, beaucoup de répression dans ces villages Sanamandougou, Sao, dont les gens sont battus, emprisonnés, des femmes ont été battues jusqu'à l'avortement. Donc maintenant, là-bas, ils font des pommes de terre. Des gens qui étaient des greniers du Mali en céréales, aujourd'hui, se trouvent avec une pomme de terre dont ils ne connaissent pas. Et c'est vendu à Bamako, à 400 km du village. Ils vont aller vendre là-bas les pommes de terre, mais à 300 km de Bamako, ils vont aller vendre les pommes de terre dans la ville. Et ils sont là. Leurs champs sont pris, ils n'ont pas de terre pour cultiver et ils font leur culture pour aller faire leur business.
Alors le quatrième, tu me disais, il y a le bon
phytotique. Oui, la modiation des forêts.
La modiation, qu'est-ce que c'est exactement?
Un autre gros danger qui a commencé, c'est qu'on a des forêts chez nous depuis dans des siècles. C'est que depuis nos ancêtres ont compris que nos forêts, la biodiversité est très importante pour le climat. Tu vois rarement des villages qui n'ont pas de forêts sacrées. Hein? Dédé, il y a des grandes forêts où les villages, où depuis dans les temps historiques, ils n'ont pas créé des villages. Ils ont laissé ces forêts, les chercheurs de nord, vous laissez ça, on va chercher de la viande là-dedans et que tout le monde les respecte. On ne prend que des bois morts et autres. C'est ces forêts qui sont chez nous. Des grandes forêts qui sont là-bas. Tout le monde sait que ces forêts-là contribuent beaucoup au règlement climatique. C'est ces forêts, à l'époque, ils ont classé ces forêts. Puisque c'est historiquement protégé, donc ils ont classé ces forêts. Mais les droits déjà dans ces forêts, les gens passent pour aller des bois morts, des feuilles pour traiter les enfants, pour faire des petites chasses de gibier. Aujourd'hui, on voit l'arrivée de la modération de ces forêts. C'est des 200. Quand on regarde vers Yanfolila, au sud, plus de 300 000 hectares de forêts. Non, plus de. Oui, 300 000 hectares de forêt a été amaudié à une seule personne. Quand on voit Akai, ils ont amaudié des forêts là-bas. Notre Faya, aujourd'hui qui est notre poumon, qui est après Bamako, a été amaudié à un opérateur économique. Donc, et lui, ils interdisent l'accès aux forêts de tous les villageois. Des villages qui sont à 500 mètres de forêt ne peuvent pas rentrer. D'autres qui sont à 1 km ne peuvent pas rentrer. D'autres qui sont à 200 mètres ne peuvent pas rentrer. On les interdit complètement. On dit que non, ça m'appartient moi à maintenant. Une autre forme d'accaparement.
Quel usage est fait de cette forêt maintenant?
Donc, lui, il organise des chasses de commerce là-dedans, où les touristes vont venir, ils vont organiser des chasses, ils vont organiser des pêches et tout. Mais au détriment de ces gens qui voient leur forêt, leur qui est leur bien, leur nature, donc ils ont conservé pendant des siècles, mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas foutre de pied là-dedans.
Quelle est la forme de mobilisation des paysans, des villageois maintenant.
Voilà, des villageois. Donc, raison pour laquelle mon organisation, c'est un mouvement de lutte de base, l'IACDD. Tu vas voir www.uacd2d3d4.org. Tu cliques, tu verras. Donc, nous sommes auto-organisés. C'est le phénomène de cet accaparement. Les impasses de la communauté, se sont mis en groupe et par fini, ils ont créé l'Union pour le développement et la défense des droits des demi-minutes. Donc, pour commencer à lutter contre le gouvernement, faire des grandes pressions. Donc, c'est suite à tout ça aussi qu'on est monté encore avec les syndicats paysans, des organisations paysannes et d'autres organisations qui sont sur les plaidoirs, d'autres organisations qui sont des organisations des jeunes juristes. On s'est tous mis ensemble pour créer la convergence malienne contre les accaparements des terres.
D'accord. Quels sont vos objectifs aujourd'hui stratégiques?
Nos objectifs stratégiques, c'est pour dire aussi qu'on est membre du NOVOX. Le NOVOX, c'est les 100 voix du monde, donc le NOVOX international, dont je parle au nom en Afrique. Donc nos objectifs, c'était un, d'arriver à annuler tous ces bois amphithéotiques, des contrats d'amodiation des bois amphithéotiques. faire des pressions pour que les paysans qui ont perdu leurs terres puissent se retrouver et qu'il y ait une réparation des préjudices. De trois, qu'on a commencé maintenant, c'est d'influencer sur les politiques et dans la constitution sur nos lois pour qu'il y ait des lois qui nous protègent. Quatre, la reconnaissance de nos droits coutumiers, de nos droits d'échange, de nos droits historiques depuis en tant que Kourkanfouka et son insertion dans notre texte, dans notre code domanial. Donc ce sont nos objectifs aujourd'hui pour la lutte.
Okay.
On a commencé, il y a la loi qui est déjà faite, le conseil ministre l'a adopté, ça n'était pas bien. On a fait une lettre pour leur dire qu'on n'est pas d'accord de ce que vous avez, ce n'est pas ce que nous on a. Donc on est en train de nous mettre auprès de l'ensemble pour les faire ajouter. Donc tous les objectifs sont en cours, mais rien n'est atteint. Parce que le gouvernement continue de faire le sourd et il continue à marcher sur nos terres.